Mesdames, Messieurs, chers amis, merci encore de nous suivre dans cette soirée. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir avec nous deux personnalités qui ont exercé les plus hautes fonctions de l'administration de l'Union européenne, Monsieur Pierre Desfraigne, qui arrivera un peu plus tard, et qui est ancien directeur général adjoint du commerce extérieur de la Commission européenne, et Monsieur Alfred Steiner, ancien directeur général des études de la Banque européenne d'investissement. Dans cette époque de crise de la construction de l'Union, la construction politique de l'Union européenne, beaucoup d'événements ont soufflé les chauds et les froids. Et dans cette époque, les chemins vers une union politique toujours plus étroite demandent des transferts de souveraineté du niveau national au niveau européen. Ce qui trouve des obstacles non seulement au niveau de l'idéologie politique, notamment celle des mouvements populaires, mais aussi au niveau plus objectif des problèmes d'ordre économique. Aussi bien au niveau idéologique qu'au niveau économique, se pose toujours la question des valeurs fondamentales de l'Union, qui, bien qu'explicitées dans la dernière modification des traités originaires, donnent toujours lieu à des interprétations différentes, et notamment sur la question fondamentale de savoir jusqu'à quel point la solidarité peut et doit jouer, jusqu'à quel point on peut garantir la liberté, jusqu'à quel point on peut garantir l'égalité. En fait, liberté et égalité sont conciliables seulement par la fraternité, qui est le synonyme de la solidarité. Nos conférenciers de ce soir vont nous faire des réflexions qui vont nous aider à porter un jugement sur la crise actuelle. Je vous présente avec grand joie Alfred Steiner. Tout à l'heure, je vous présenterai Pierre Desfraigne quand il va arriver. Le professeur Alfred Steiner, je me permets de dire, est un classique intellectuel allemand. Un intellectuel allemand, professeur d'économie à l'université, qui était professeur d'économie à l'Université catholique de Louvain, un senior économiste au Fonds monétaire international, conseiller économique à la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne, où j'ai eu le plaisir de rencontrer, d'établir avec lui une amitié de longue date, et puis économiste en chef et directeur général de la Banque européenne d'investissement à Luxembourg. Il était research professor à la Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung de Berlin. Il a accompli beaucoup de missions à l'étranger et, entre autres, a été conseiller des gouvernements du Kazakhstan et des Émirats arabes unis. Son éclectisme lui a permis d'être le premier recteur fondateur en Italie d'une université de langue allemande à Bolzano. Sud-Tirol ou Alto Adige. Ça dépend du point de vue italien ou autrichien. Et je me passe de présenter la vaste bibliographie du professeur Steiner, mais parmi ces distinctions honorifiques, je cite seulement celle qui lui a été attribuée par la Belgique, qui est chevalier du travail. Alfred, tu as la parole.
Non, je n'ai pas besoin. Merci beaucoup. J'en ai ce qu'il faut. Je suis assez heureux d'être avec vous. J'ai rarement l'occasion de m'entretenir avec un public aussi expérimenté. Normalement, je m'adresse à des gens qui ont entre 18 et 25, et je crois que ça vaut quand même la peine de parler une fois avec un public un peu différent. Une petite correction, mais qui me tient quand même à cœur. J'étais recteur fondateur pas d'une université germanique, mais d'une université trilingue, italien, allemand et anglais, évidemment. Ce qui, dans l'Europe dans laquelle nous vivons, est, je crois, un avantage énorme d'avoir une formation au-delà de la langue du propre pays. Enfin, quand on a la chance d'être dans un pays qui a deux langues officielles, ça fait déjà deux, et pourquoi pas la troisième, l'anglais. Enfin, je voudrais faire trois points dans cette analyse de l'aventure euro. Et je vous prie de ne pas penser que mon discours est pro ou contre l'Europe ou pro ou contre l'euro. C'est pas, on peut très bien être tout à fait en faveur d'une chose et quand même noter des problèmes qui existent, des problèmes qu'on ose pouvoir régler, et parfois il faut admettre qu'on ne peut pas le régler. Alors, je structure ma présentation en trois points. La première, même si ça vous paraît peut-être un peu banal, c'est la question coût-bénéfice d'une union monétaire. Parlons-nous de quelque chose qui, en tant que tel, est, à part la valeur symbolique, les Européens sont capables de faire quelque chose. On a une monnaie commune, comme on peut peut-être avoir une armée commune, comme on peut avoir un drapeau commun. C'est très difficile d'évaluer la valeur symbolique. Il est difficile, mais quand même possible, de dire, mais à la fin de compte, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'une monnaie commune. Alors, parmi les avantages, il est évident, pour quand on voyage, on ne doit pas tout le temps échanger des monnaies, et ce qui nous reste au voyage, il faut de nouveau le reconvertir en monnaie nationale. C'est un avantage indubitable, mais ce n'est pas énorme. Deuxième avantage, notamment pour le business, quand on vend à l'étranger, on est payé dans une monnaie étrangère, c'est un risque d'échange, ou quand on importe de l'étranger, c'est un risque d'échange. Aujourd'hui, je commande, en 4 semaines, je paye. Entre-temps, le taux de change a pu être varié. Donc, ici, avec l'euro, on n'a pas de risque d'échange. Est-ce important? Pour vous et moi, oui, mais nous traitons de des petites monnaies, mais pour les affaires, il y a des techniques financières aujourd'hui, il y a des marchés à terme, il y a des marchés options, où on peut régler parfaitement ce genre de problème à un coût modeste. Donc, ces deux choses-là sont indubitables, mais vraiment négligeables. Alors, plus important est le fait que un petit pays ne peut pas avoir un marché de capital très efficient, tout simplement parce que c'est une question de taille. Hein, les grands marchés, c'est les États-Unis, c'est le Royaume-Uni pour son rôle traditionnel comme financier du monde. Et même la France et l'Allemagne n'avaient pas des marchés de capitaux qui étaient efficients. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus grand et ça veut dire que c'est plus facile pour des grandes entreprises de se financer sur le marché de capital, de collecter des sommes importantes, etc. Là, c'est un avantage. Est-ce important? Oui, certainement, c'est important. Bien sûr, on aurait pu toujours se refinancer en dollars, le marché de capital le plus efficient. Mais bon, comme ça, on a au moins chez nous un marché de capital qui est bien. Maintenant, la monnaie est quelque chose qui ne sert pas seulement aux entreprises, en particulier, la monnaie est quelque chose, une sorte de moyen de faciliter les échanges et un but possible est de réaliser une certaine stabilité de prix. Pourquoi stabilité de prix? Puisque ça rend la planification plus facile si vous êtes un épargnant, si vous faites des décisions, acheter une maison ou pas. C'est évidemment plus facile quand il n'y a plus d'inflation. Il y a des États en Europe qui avaient énormément de difficultés à assurer une certaine stabilité de prix. Le pays d'Elio est un pays d'origine, pas son pays d'amour. Enfin, si, la Belgique aussi avait des moments où où l'inflation était quand même assez importante. Normalement, on a ce genre de problème d'une forte instabilité des prix quand un pays ou un gouvernement se sert de son système bancaire. On imprime la monnaie pour payer ses dettes, etc. Alors, un avantage d'une monnaie unique est, au moins pour des pays qui avaient des problèmes à établir par eux-mêmes une stabilité de prix, de l'avoir maintenant imposée. Mais il y avait des pays qui n'avaient pas de problème avant et qui n'ont pas de problème maintenant. Donc, ils ne gagnent pas tellement de ce système. Disons, ça c'est le Nord, et le reste c'est le Sud, avec une approximation. Parfois, on peut être un Nordique au Sud, comme les gens du Nord d'Italie, ou on peut être un Sudiste dans le Nord. Je ne parle pas de la Belgique. Alors, très bien. Là, on peut dire qu'il y a peut-être un avantage pour certains. Mais maintenant commence un peu le problème. C'est clair, quand on a une monnaie, il y a seulement une politique monétaire. Et cette politique monétaire, ça serait incroyable si c'était l'optimum pour tout le monde. C'est uniquement possible si nous étions tous pareils. Pas pareil, je ne veux pas dire comme être humain, mais que nos États soient relativement homogènes dans ce qu'ils veulent réaliser. Par exemple, se mettre d'accord, on veut avoir des prix bas, on ne veut pas que le gouvernement nous trompe tout le temps et crée des inflations qui finalement... L'inflation, ça ne coûte pas à tout le monde. Hein. L'inflation, c'est en fait merveilleux pour ceux qui ont des dettes nominatives et des actifs réels. Alors, grosso modo, les très pauvres n'ont pas trop d'actifs réels. Les très riches ont surtout des actifs réels. Donc, en quelque sorte, un pays qui a une variation très forte de la stabilité de prix, enfin, des taux d'inflation qui sont très variables, est un pays c'est un système qui est bon pour, disons, les riches, et c'est pas très bon pour les pauvres. Alors, c'est difficile maintenant de dire, mais quel est l'inconvénient d'avoir une seule politique? Mais une chose, nous pouvons dire, probablement personne ne va être content. Puisque les uns veulent dire, ah, il faut beaucoup moins de politique expansive, et les autres vont dire, mais il n'y a pas assez de politique expansive, on essaie d'être au milieu, et alors personne n'est content. Est-ce que c'est important ou c'est pas important? Mais regardons. Nous avons la monnaie unique depuis plus ou moins l'an 2000. On a eu une crise majeure. Cette crise a probablement détruit beaucoup plus que un petit gain qu'on aurait peut-être pu réaliser dû aux avantages que j'ai mentionnés tout à l'heure. Il y a une bonne partie de l'Europe du Sud qui, maintenant depuis 2008, est dans une situation dramatique. Chômage énorme, notamment des jeunes, perte de croissance. La Grèce a connu une décroissance. Ils sont aujourd'hui plus pauvres qu'avant. Pas plus pauvres, je veux dire revenu par tête, revenu moyen par tête, qu'avant l'an 2000. Donc, on peut dire, si on juge tout simplement par ce que nous avons fait, ce n'était pas une entreprise réussie. Non, mais OK, mais si les 1000 ans à venir vont être bons, alors c'est 7 ou 8 ans de problème, ce n'est pas important. Mais nous n'avons pas encore résolu les problèmes qui ont conduit à cette situation. Donc, parlons maintenant un peu de qu'est-ce qui n'a pas marché. Eh bien, quand on construit une monnaie, il y a plusieurs façons de le faire. Une, j'appelle ça la voie étatique. Enfin, il y a un État qui décide, il a ses institutions qui gèrent en fonction de ce que l'État veut. C'est un peu ce qui s'est passé dans le sud de l'Europe, où d'ailleurs la Banque centrale n'a jamais été indépendante avant qu'on avait fait le nécessaire pour la préparation de l'euro, mais c'était un département, par exemple la Banque de France était sous l'égide du Trésor. De même en Italie, la Banque centrale, elle recevait les directives du ministère des Finances. Et puis il y en a d'autres où la Banque centrale, elle était indépendante, elle pouvait décider en fonction de ce que était son mandat de s'occuper de certains objectifs tels que stabilité de prix ou autre. Alors, on peut organiser la monnaie telle que c'est l'État qui assume et c'est l'État qui gère. La deuxième approche est, il y a assez de raisons de se méfier de l'État. Donc, on essaye de créer une base légale. On définit les droits, les obligations, les objectifs. Et ça, c'est un peu la procédure. Pas seulement allemande, mais allemande, suisse, États-Unis, dans une certaine mesure. Et le traité de Maastricht était supposé être un document légal qui reflète l'idée que le droit est vraiment défini nos règles de conduite. Et un souci était d'écarter l'interférence par les États, sachant que le rôle des États dans différents pays de l'Europe est fort différent. Donc je ne parle même pas de corruption, de ceci et ça, mais tout simplement que les gouvernements ont d'autres visions, ont d'autres règles de jeu, etc. Donc on voulait écarter tout ça. Donc c'était pas si mal. Le problème a commencé quand il fallait décider, mais OK, qui va devenir un membre de cette union monétaire? Et là, il y avait de nouveau des réflexes. Oui, c'est vrai, selon notre contrat que nous venons de signer, l'Italie ou la Belgique ne peuvent pas entrer. Mais ce sont des États fondateurs. Donc, on a encore eu, dit oui, alors on ne fonde pas, on attend. Mais non, on a déjà attendu assez longtemps, maintenant il faut le faire. Ça peut être, dire oui, la sagesse politique, mais ce qui est quand même gênant, Pendant des années, on négocie un agrément, un traité international. Et à la première action qui était de dire, OK, qui est membre du club, on ignore. Par là, on a émis un message très clair. Ce traité ne vaut rien. Parce que quand ça convient à certains États... Donc, on a commencé l'Union monétaire en dévalorisant cet effort de créer un cadre de droit. Alors après, nous savons, pendant les premières années, la France et l'Allemagne ils n'ont pas respecté les règles de déficit courant du budget. Maintenant, on peut évidemment, si on veut, on peut dire oui, de toute façon, les règles étaient en partie relativement idiotes. Donc, après, on s'est rendu compte, et donc on n'a pas regardé, on n'a pas respecté, puisqu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces règles idiotes? Mais bon, n'importe quel compromis au niveau européen est un compromis. Donc, avec des éléments qui ne correspondent pas à une certaine optimalité. Et en plus, il y avait dans ce traité la fameuse clause de no bailout. C'est que je voulais dire, essayons de mettre quand même la pression sur chaque gouvernement à se comporter avec responsabilité. Ne créons pas ce que les économistes appellent moral hazard, c'est-à-dire l'incitation du oh, bah, il y a toujours des Européens qui vont s'occuper de nos problèmes, qui vont nous donner de l'argent. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'on essaye maintenant de pousser des réformes qui sont pénibles. Donc, on a tout fait pour. Et finalement, à la fin de compte, on s'est rendu compte que si un pays a des problèmes, on ne peut quand même pas tout simplement regarder et dire voilà ce qu'il veut faire, mais sans notre aide. Donc, nous avons quand même aidé, nous, le reste de l'Europe. Ce qui était la confirmation que les Grecs ils l'ont très bien fait. Et c'était super intelligent. D'ailleurs, même leur endettement était intelligent. Regardez, avec l'euro, les taux d'intérêt sont devenus très faibles, plus ou moins ce que en Belgique, en Allemagne, on avait déjà avant. Mais pas les pays du Sud. Les Grecs avaient l'habitude de payer 10%, 12%, 15%, et soudainement, les taux sont 2%. Mais qu'est-ce qui fait un être rationnel quand il voit cette aubaine de pouvoir s'endetter à 2%? Mais ils s'endettent. Il faudrait être absolument imbécile de ne pas le faire. Donc, rationnellement, les entreprises, le gouvernement et les privés. Alors, un privé s'endette pour quoi faire? Un peu pour la consommation, mais surtout pour s'acheter une deuxième résidence à Mykonos. Ou un deuxième appartement à Athènes. Donc, ceci a donné alors, lieu à une bulle immobilière. Et je ne veux pas dire que ce n'est pas le problème des Grecs. C'est le problème de ce que nous, Européens, nous avons fait. Et c'est le problème pour la Grèce, 2%. Ce n'était pas le bon taux. C'était le bon taux pour la Belgique, mais pas pour eux. En Espagne, la même chose. Tout cet argent n'a pas été emprunté pour créer des postes de travail, pour investir dans le software, dans l'industrie, etc. Non, c'était pour financer la construction. Et tout à fait rationnellement. Donc, qu'apprenons-nous de cette expérience? qu'il est extrêmement difficile de suivre une certaine rationalité. Plus on veut une intégration, et évidemment l'union monétaire est une forme d'intégration, plus on veut faire ça, plus il faudrait avoir de l'homogénéité, qu'on veuille tous à peu près la même chose et qu'on soit capable aussi de participer dans cette affaire, dans cette aventure. Donc, mon hypothèse est si on n'avait pas commencé à violer le traité dès le début, si on s'était limité à des membres plus homogènes, je veux dire, Italie, non, Grèce, non, vraiment, la Grèce, avec ses comptes publics complètement fantaisistes, ils sont venus en disant, mais écoutez, vous avez admis les Italiens et les Belges, et nous, on a une dette publique inférieure. Comment pouvez-vous dire non à nous ? Alors, oui, d'accord, oui, vous avez. Mais ça serait quand même pas juste. On savait parfaitement que les comptes étaient truqués. Mais c'est difficile à dire à un État qu'on considère quand même au même niveau que tous les autres. Mais écoute, arrête, toutes tes affaires sont truquées, t'es pas sérieux, toi. On ne peut pas traiter un collègue du gouvernement grec de cette sorte-là. Donc, on le savait et on a joué le jeu, et comme ça, ils sont devenus membres. Alors, nous sommes maintenant dans une situation où nous savons que les problèmes persistent, on n'a pas réglé les problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La première possibilité est de faire ce que Macron propose. N'est-ce pas ? Il propose de réanimer, de dynamiser plusieurs aspects de l'Union européenne, aussi le problème de l'euro. Et il fait ça. Si on m'avait demandé qu'est-ce qu'un président français va proposer, j'aurais pu deviner. On crée des nouvelles institutions, on crée des nouvelles fonctions, ça fait du bien, ça fait du travail pour des amis qu'on veut éloigner de la capitale française. Par exemple, un ministre des Finances. Waouh, un ministre des Finances. Qui fait quoi exactement ? Normalement, ministre des Finances, il s'occupe de collecter des impôts. D'accord. Il a proposé que les États versent une partie relativement importante à ce trésor européen, ce ministre des Finances européen. Je ne sais pas si les gouvernements vont être très chauds de transférer un multiple de ce qu'ils versent aujourd'hui à Bruxelles. Alors, concrètement, on se met d'accord à arriver à une plus grande uniformité des impôts sur les sociétés, et alors une partie de cela va. Je ne crois pas que beaucoup de gouvernements vont être chauds à accepter une égalisation. Sur quel niveau ? Niveau plus élevé ? Niveau plus bas ? Quelque part entre les deux ? Alors ceux qui sont plus hauts, ils ont des raisons pour dire non, il faut que ce soit plus haut. Ceux qui sont plus hauts, non. Donc personne ne va être contre. Je crois que ça va être difficile. Ce n'est pas impossible, bien sûr. Mais ça va être très difficile. Alors, une fois que ce ministère a des sous, qu'est-ce qu'il va faire ? va-t-il investir? Mais pour ça, on a déjà des institutions. On a par exemple la Banque européenne d'investissement. Alors, faut-il une deuxième institution? Probablement pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas investir. Alors, il va financer les déficits des pays qui ont des déficits importants, qui ont des difficultés, puisque les réduire, c'est difficile. Donc, on leur donne de l'argent pour... Ah! Donc, c'est la redistribution entre ceux qui font attention à ceux qui préfèrent ne pas être sous cette contrainte. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Une machinerie importante qui redistribue de l'argent? Maintenant, on pourrait évidemment dire « Oui, c'est chrétien, c'est généreux. » Et j'ajouterais, c'est imbécile. Parce que j'aime bien le père des sciences économiques, c'est un Écossais, Adam Smith. Et Adam Smith, il a un passage qui est très bien. Il dit, si vous voulez du bon pain, ne pensez pas que dans le magasin, on vous fabrique du pain parce qu'on veut vous faire plaisir. Le boulanger, il fabrique du pain pour gagner de l'argent. Et s'il fait du bon pain, les gens vont acheter plutôt chez lui qu'ailleurs. Donc, on faisait du bon pain, il rend service à l'acheteur, et l'acheteur, il est content qu'il peut acheter du bon pain. On n'a pas besoin d'un État qui décide, et on a déjà vu des exemples où l'État a décidé de faire du bon pain. Donc, il faut toujours une motivation. Donc, il faut aussi une contrainte pour les gouvernements à régler leurs problèmes et pas tout simplement à dépenser à volonté et après devenir chez les Européens pour encaisser. Donc, je ne vois pas encore, d'ailleurs, c'est peut-être trop tôt puisque il n'a pas produit des détails de l'implémentation de ces idées, mais à première vue, c'est pas très prometteur. En plus, se rendre compte que beaucoup de choses qu'on fait en Europe, c'est pas très démocratique, et que les citoyens veulent quand même se sentir consultés et d'avoir aussi leur mot à dire, c'est ce qu'on fait. Alors, il a proposé un parlement pour l'eurozone. Ouais, avec le parlement européen qu'on a déjà, c'est peut-être pas une idée qui est super séduisante. En plus, un deuxième pour l'eurozone. Alors, comment ça se passe avec le parlement européen et puis le parlement pour l'eurozone? C'est quelque chose de difficile à régler. Donc, Je crois, d'un côté, par la logique économique de tout cela, et deuxièmement, par la faisabilité de tout cela, je pense qu'il y aura de nouveau des organisations, on crée des agences, on crée quelque chose, un ministre, probablement. Mais si ça règle les problèmes, j'en doute. Alors, la deuxième possibilité est de revenir un peu en arrière et dire, mais le traité Maastricht n'était pas si mauvais que ça. C'était ce qu'on avait fait avec qui était un problème. Essayons d'être sérieux. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de support pour ça non plus, parce que ça vaudrait, parmi d'autres, dire, il faudrait réduire un peu ce groupe. Il faudrait éliminer certains membres. Et ça, l'Europe ne peut pas faire. C'est, on perd la face, on se rend compte qu'on a fait des bêtises dès le début. Donc, il n'y a plus de chance que ça se fasse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les Anglais ont une belle expression, meddling through. Donc, tout simplement, on reste dans la difficulté et on continue. Et on va garnir tout ça avec quelques nouvelles initiatives, genre on nomme un ministre, on donne à ce ministre un budget, j'espère pas 400 milliards, mais quelque chose de plus modeste, 4 millions par exemple. Donc, pour faire un peu. Je crois, c'est ça ce qu'on veut faire. Maintenant, on pourrait faire une bonne chose, mais je ne suis pas sûr non plus qu'on le fera. Il y a des candidats à devenir membres. Des candidats, bon, si vous êtes d'origine bulgare ou roumaine, veuillez me pardonner, ce n'est pas personnel, mais j'ai quand même peur d'avoir de l'union monétaire certains pays. Si on voit que tout ce qui était l'ex-Yougoslavie est maintenant 7 ou 8 États, ils pourraient devenir membres. Ça me fait peur. C'est pas, l'avantage de la Grèce, est, il y a seulement une Grèce. Bon, c'est déjà un problème, mais disons, c'est mieux que d'avoir deux. Et là, il y a Antiportas, il y a toute une série de pays et l'Union européenne voit toujours son succès dans la signature d'un traité, dans l'accueil d'un nouveau membre. Mais ce n'est pas la signature qui est importante, c'est ce qu'on fait avec. Ce n'est pas qu'on a un pays à problème en plus. Et donc, je crois que ça vaudrait la peine de s'engager à dire à l'Europe, ce qui concerne l'euro, stop. On veut bien accueillir la Suisse, on veut bien accueillir la Suède, le Danemark. Flûte, ils ne veulent pas. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les arguments qu'on avait. On va devenir beaucoup mieux, c'est réconfortant, on est plus grand, on est plus puissant dans les affaires mondiales. La Suède ou le Danemark ont de la stabilité de prix, ont connu des croissances plus importantes que les pays de l'eurozone. Apparemment, on n'a pas besoin de cette monnaie pour faire du bien, pour être démocratique, pour avoir des valeurs que nous chérissons. Mais oui, mais c'est bien sûr la Suisse. Je veux dire, une petite parenthèse historique, parce qu'il y a quelques années, j'ai lu le travail d'un historien suisse autour de 1850. Et il décrivait la situation piètre de la Suisse, n'est-ce pas, l'agriculture avec ses montagnes, c'est coûteux, c'est pas efficient, ils n'ont pas de charbon, ils n'ont pas des minerais. Donc la Suisse est condamnée à rester pauvre pour le reste de son histoire. Donc c'est pas donné par Dieu la richesse de la Suisse. Ni la richesse du Danemark, etc. Et on ne doit pas être nécessairement dans l'eurozone pour bien faire. Notre croissance, depuis l'an 2000, a été la plus faible, si on le fait par décennie, de l'histoire européenne, après-guerre. Enfin, la première guerre, c'était la reconstruction, c'était plus important, c'est clair. Mais même après, c'était plus élevé que ces dernières années. Depuis qu'on a l'union monétaire, les choses ne vont pas si bien. Non, moi personnellement, mais ça c'est une. Moi je ne serais pas malheureux si on disait oh l'euro, on en a marre, on laisse tomber. Bien sûr, on ne va pas le faire. Mais ça ne va pas nous détruire non plus. Voilà. J'espère que j'ai quand même un tout petit peu créé une sorte de réflexion et un peu d'éléments pour le débat. Merci.